Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
C'est une figure moins connue du Moyen-Âge, éclipsée par ses frères, les rois maudits, rendue célèbre par la littérature et par le cinéma. Pourtant, elle est un personnage fascinant, à la vie tout aussi romanesque, mêlée de luxe, de belles étoffes et d'affrontements politiques. Je vous raconte maintenant une reine consort et reine du shopping aussi, l'anglaise Isabelle de France. Il fait frais en ce 25 janvier 1308 devant la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Les cloches qui carillonnent annoncent un heureux événement. Sur le parvis de l'église se presse une foule élégante et bigarrée, mêlant aristocrates anglais et français venus assister aux noces de deux personnalités d'importance. Édouard II, roi d'Angleterre depuis quelques mois, épouse Isabelle de France, fille du puissant roi de France Philippe le Bel. La princesse, que les chroniqueurs comparent à une rose, est majestueuse, dans une robe bleue et or surmontée d'un manteau rouge. Sur sa tête, on a posé une couronne dorée garnie de pierres précieuses. Il n'en fallait pas moins pour la jeune fille de 13 ans habituée, depuis sa tendre enfance, au luxe le plus absolu. Isabelle de France naît à Paris dans les dernières années du XIIIe siècle, probablement durant l'hiver 1295-96. Sixième enfant du couple royal, elle est la seule fille de la fratrie à survivre aux premières années de l'enfance. De sa jeunesse, on sait peu de choses, sinon qu'elle perd sa mère, Jeanne de Navarre, vers l'âge de 9 ans, et qu'elle est choyée par son père et ses trois frères, les futurs rois maudits, formant autour d'elle une famille très unie. Fait assez rare pour être souligné, Philippe le Bel n'a ni maîtresse, ni enfant illégitime, et refuse même de reprendre une épouse à la mort de sa femme. Isabelle passe son enfance au palais de la Cité, au cœur de Paris. Elle y reçoit une éducation soignée, apprend à lire et à écrire. On la sait passionnée par les romans de chevalerie et le cycle arthurien, plus que par les romans d'amour. Entourée de garçons, elle partage avec eux le goût de la chasse. Toute petite déjà, Isabelle se sait destinée à un roi. La seule fille du souverain français ne saurait épouser un simple comte, ni même un duc. Au début du XIVe siècle, le royaume de France est le plus puissant d'Occident. Très tôt, Isabelle a conscience de la supériorité que lui confère son rang. Arrière petite fille de Saint-Louis, elle tire une fierté certaine de sa glorieuse ascendance et mène un train de vie fastueux qui reflète sa position dans la société. Cela se voit dans ses vêtements. Au Moyen-Âge, l'habit est comme une carte d'identité qui révèle immédiatement le rang de celui ou de celle qui le porte. Isabelle se doit d'afficher sa magnificence et son goût semble la porter à le faire plus qu'aucune autre. Pour son mariage, conclu au terme d'une négociation diplomatique entre deux nations ennemies, mais aux intérêts mêlés, Isabelle apparaît donc dans une toilette magnifique. Son père lui fait aussi cadeau d'un trousseau somptueux qui comprend entre autres sept couronnes, trois coffres de rubis et d'émeraudes et des broches figurant des fleurs de lys tout en or. Ces bijoux viennent enrichir des robes aux étoffes précieuses, des velours et des soies venues d'Orient, des fourrures d'hermine et de verre, les plus chères, et des chapeaux luxueux. Les époux sont jeunes, beaux, le mariage semble prometteur. Et pourtant, à peine ont-ils accosté à Douvres, qu'Isabelle voit son mari se jeter dans les bras de son favori, Pierre Gaveston, un jeune Béarnais avec qui il entretient depuis des années une relation fusionnelle. Pendant le banquet qui suit le couronnement, Isabelle est reléguée au bout de la table, tandis que le roi s'installe au centre avec son favori. Plusieurs nobles indignés quittent la fête. Bon an, mal an, Isabelle s'installe en Angleterre. Grâce à la rente annuelle considérable négociée par son père auprès de son mari, la jeune femme peut maintenir un somptueux train de vie. Sa maison emploie à plein temps un tailleur, Jean de la Falaise, à la tête d'une équipe de 60 couturières chargée de confectionner ses robes. Pour la chandeleur de l'an 1312, Jean agrémente la robe d'Isabelle de 40 nœuds d'or. Le tailleur, indispensable à la souveraine, la suit partout dans ses déplacements, comme la caravane de chariots transportant ses vêtements et sa vaisselle d'or et d'argent. Certains moralistes goûtent peu cet affichage de luxe et lui conseillent de se vêtir plus sobrement. Mais la reine n'en a cure. C'est elle qui a introduit la mode parisienne à la cour anglaise, avec ses longues robes ceinturées sur lesquelles elle porte un surcot ajusté bordé de fourrure. Sa chevelure blonde se devine sous un voile transparent. Devenue adulte, Isabelle reste toujours décrite comme splendide et la plus belle de toutes les femmes. Après l'exécution de Gaveston, le favori de son mari, la situation de son ménage s'améliore. Cette même année 1312, le couple a un fils, le futur Édouard III. Isabelle a enfin l'attention du roi. Excellente diplomate, la reine s'attache à apaiser les tensions politiques qui agitent le royaume. Elle supplie le roi de pardonner à ses ennemis et demande aux ennemis de calmer leurs ardeurs. Isabelle bénéficie d'une autre oreille attentive, celle du pape, alors installée à Avignon et très proche de la couronne française. Pourtant, bien vite, Édouard se trouve un nouveau favori, Hugh de Spencer, qui en peu de temps acquiert un pouvoir immense auprès de lui. Tyrannique, de Spencer n'hésite pas à rançonner les femmes de l'aristocratie et menace même, dit la rumeur, de s'en prendre à la reine. Mais Isabelle n'est plus la jeune adolescente qui avait supporté des humiliations au début de son mariage. Envoyée en France pour traiter la paix auprès de son frère Charles IV, la reine d'Angleterre, au caractère déterminé, prépare une âpre vengeance. Alors que son épouse s'attarde outre-Manche, Édouard s'impatiente. Ses courriers adressés au roi de France en témoignent, mais ni le frère d'Isabelle ni le pape ne sont pressés de se mêler à la dispute du couple. La reine d'Angleterre est accompagnée de son fils Édouard, un jeune adolescent qui ne semble pas vouloir quitter sa mère pour retrouver son pays. La France voit d'un bon œil que la femme et l'héritier du trône d'Angleterre contestent son autorité. Pourtant, Isabelle manque à ses devoirs d'épouse et elle le sait. Alors, toute vêtue de noir et portant une guimpe, la coiffe des veuves, la reine déclare « Je crois qu'un mariage est une union entre un homme et une femme, mais quelqu'un s'est introduit entre mon mari et moi qui est en train d'essayer de rompre ce lien. » D'accusée, elle devient accusatrice et s'attire les sympathies des ennemis du roi, commencés par les Anglais que son favori a contraint à l'exil. Le baron Roger Mortimer est de ceux-là. Tout au long de l'année 1326, Isabelle, qui a désormais une trentaine d'années, prépare avec celui qui est sans doute aussi son amant un plan pour renverser son mari. Avec le soutien d'un comte, ils lèvent une armée de mercenaires et font cap sur l'Angleterre. Depuis Philippe Auguste, personne n'avait osé partir à la conquête de l'île. Isabelle sera la dernière à réussir cet exploit. Sur place, les soutiens ne tardent pas à les rejoindre. Isolé, le roi doit fuir avec son favori. Mais les deux hommes sont vite retrouvés. Le premier est emprisonné, le second exécuté dans des conditions abominables. Isabelle de France a pris sa revanche, mais pour une femme au Moyen-Âge, difficile de conserver le pouvoir. Quelques années plus tard, son fils Édouard III fait arrêter Mortimer et évince sa mère pour régner à son tour. Écartée du trône, Isabelle garde un rôle de conseil auprès du roi jusqu'à sa mort en 1358. Vêtue d'une robe très simple, l'ancienne élégante avait couché sur son testament une dernière volonté. Que l'on couvre sa dépouille de la splendide robe bleue et or qu'elle portait le jour de son mariage, 50 ans plus tôt.
Europe 1, historiquement vôtre.